Ok, nous débutons ce soir une nouvelle série sur la théologie réformée systématique. Alors, la première leçon, c'est qu'est-ce que la théologie? Alors, on va regarder trois principales idées à l'intérieur de la première leçon. La première idée, ça va être celle de la théologie comme discipline académique. La deuxième idée, la théologie systématique et ses branches. Et la troisième idée, la théologie et son utilité. Alors, juste question de présenter, j'avais déjà fait une série sur la théologie systématique qui consistait en 150 leçons, qui avait été basée sur le théologien et pasteur réformé baptiste anglais du 19e siècle, du 18e, 19e siècle, John Gill. J'ai décidé de refaire une nouvelle série sur la théologie systématique, mais à partir d'un théologien du 21e siècle, 20e, 21e. Alors, cette série d'enseignements sur la théologie réformée systématique va être en très grande partie basée sur les quatre volumes des pasteurs américains réformés Joel R. Bickey et Paul M. Smalley, qui sont publiés chez Crossway. Ils ont été publiés de 2019 et ça va se rendre jusqu'en 2023 parce que les trois premiers volumes sont sortis. Il en reste un à sortir et on prévoit qu'il sera disponible en 2024. On sait d'avance que les quatre volumes vont couvrir l'ensemble de la théologie systématique et ça va correspondre à aux quatre volumes. Le volume 1 va parler de la révélation en général et de Dieu, donc Revelation and God dans la version anglophone. Le volume 2, ça va être Men and Christ, donc l'homme et Jésus-Christ. La troisième, ça va être le Saint-Esprit et le salut, en anglais c'est Spirit and Salvation. Et la quatrième va porter sur The Last Things, donc l'eschatologie, donc la prophétie. Alors, l'avantage de choisir des ouvrages récents comme ça, et que l'auteur, Joel Bickey, a la réputation d'écrire dans un langage simple, et aussi l'avantage d'être, comme on dit en anglais, up-to-date, à date. Les livres, bien entendu, sont en anglais. Alors, on va suivre l'ordre des doctrines présentées dans les livres. Alors, on va suivre, on va commencer par le volume 1, et on va suivre les leçons dans le même ordre que Joel Bickey les a présentées. Cependant, ce qu'on va faire, on va traduire en résumant et en ne conservant que l'essentiel. Bien entendu, quand on prend un livre de théologie et qu'on en lit 35-40 pages, c'est difficile de donner tout le contenu de ce qu'on a lu. Il faut vraiment se contenter de résumer et de ne conserver que les idées, les principales. Alors, ce qu'on va chercher à faire, je vais faire un effort pour cela, de maintenir la longueur des leçons d'approximativement 40 minutes. Lorsque on va le juger nécessaire, on va compléter avec d'autres ressources de notre choix. Alors, bien entendu, je ne me limiterai pas uniquement à ces quatre volumes-là. Il va y avoir beaucoup de choses que je vais aller ajouter pour enrichir ou pour compléter ce qu'on a déjà vu. Alors, il faut mentionner dès le départ que nous sommes de persuasion réformée baptiste. On a adopté la confession de foi baptiste de Londres de 1689. Aussi, nous nous servirons d'outils différents lorsque nous aborderons des doctrines avec lesquelles nous différons de la doctrine réformée, comme par exemple le baptême, le gouvernement de l'Église et quelques autres doctrines. Alors, on va adapter ces leçons-là avec du contenu de persuasion réformée baptiste. Alors, on va préciser à mesure nos sources lorsqu'on arrivera dans des pareilles circonstances. Nous croyons que l'ensemble des enseignements devrait comprendre plus de 200 leçons que nous donnerons au rythme de une par semaine. Pourquoi je dis 200 leçons? Comment ça que je peux le savoir? C'est parce que le livre est divisé lui-même en à peu près ça, 200 unités, 200 chapitres. Alors, on va essayer de maintenir l'ordre de cette affaire-là. Alors, bien entendu, il faut que le Seigneur me donne vie, parce qu'une leçon par semaine, ça veut dire 50 leçons par année, ça veut dire on en aurait au moins pour 4 ans, si le Seigneur nous donne vie. Alors, j'inviterai les gens qui écoutent de prier le Seigneur de nous donner de persévérer, car il est bien connu que notre théologie détermine notre comportement et aussi notre marche avec le Seigneur. Alors, la première idée qu'on avait mentionnée, c'était celle que la théologie comme discipline académique. Alors, la théologie peut être étudiée sous deux angles différents. L'angle académique et l'angle spirituel. Nous allons d'abord examiner l'angle académique, puis nous verrons l'angle spirituel dans la prochaine leçon. Pour plusieurs chrétiens, le mot théologie mystifie et intimide. Une des raisons de cela est que les chrétiens ne comprennent pas toujours le but de la théologie et qu'ils sont impressionnés par le format des livres de théologie, en général des gros bouquins, des briques, et ça peut amener certaines personnes au découragement. D'autres personnes sont carrément hostiles à la théologie et ils vont même jusqu'à en questionner l'utilité. Nous devons donc, cependant, nous rappeler que la théologie a d'abord pour but de nous amener à glorifier Dieu. Alors notre théologie influence grandement notre marche chrétienne. Le théologien réformé R.C. Sproul disait que chaque chrétien était en fait un théologien ou une théologienne, parce que notre vision du monde est modelée par notre théologie, parce que nous en comprenons. Le mot théologie n'apparaît pas dans la Bible, mais Dieu nous a parlé à travers les Saintes Écritures. Alors examinons l'étymologie du mot en grec ancien. Théos, qui veut dire Dieu, et logia, qui veut dire discours sur. Donc, si on prend les mots théos et logia ensemble, la théologie est donc le discours rationnel ou les mots à propos de Dieu. Alors, c'est assez simple. On va regarder trois versets qui viennent nous parler un peu de cette conception-là, de cette idée-là. 1 Pierre, chapitre 4, verset 11, dans la version Sterval. Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu. Si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplisse selon la force que Dieu communique, afin qu'en toute chose, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. On a aussi Romains chapitre 3, versets 1 et 2. Quel est l'avantage des Juifs? Ou quelle est l'utilité de la circoncision? Il est grand de toute manière, et tout d'abord en ce que les oracles de Dieu leur ont été confiés. Un dernier verset, Hébreux chapitre 5, verset 12. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venu à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Alors, à l'intérieur des trois versets, on remarque qu'il y a une expression qui est répétée. Les oracles de Dieu dans 1 Pierre 4, 11, les oracles de Dieu dans Romains 3, 12, 1, 2, et les oracles de Dieu dans Hébreux chapitre 5, verset 12. Donc, les mots oracle, ça signifie parler, annoncer, déclarer, c'est-à-dire faire entendre les vérités divines aux auditeurs. Pour clarifier la situation, la signification du mot théologie, et pour le distinguer d'autres notions, le pasteur et auteur Joel R. Bickey utilise les trois concepts de religion, doctrine et dogme. Alors, il nous présente les trois idées, ce que ça signifie, quelles sont les relations qu'il y a entre ces choses-là, et comment ça s'articule avec, comment ça s'arrime, on pourrait dire, avec le mot théologie. On va commencer par le mot religion. Alors, le mot religion vient du latin religio, et ça signifie relier. Donc, la religion se réfère largement à la croyance à un être divin, cependant avec une définition très large d'être divin, avec une tentative de l'honorer au moyen de pratiques morales ou rituelles. Les grandes religions du monde entrent donc dans cette catégorie. Les religions monothéistes, donc qui croient à un seul Dieu, les religions polythéistes qui croient en plusieurs dieux, panenthéistes et non-théistes. Le mot peut même inclure l'adoration de démons. J'ai mis en annexe, pour ceux qui vont écouter, mais qui pourront télécharger, c'est vraiment un tableau qui nous présente les principales religions du monde avec leurs caractéristiques sous plusieurs facettes à regarder attentivement. Alors, on ne regardera pas ça ce soir, mais je vous invite à télécharger, ceux qui nous écoutent par Internet, et à regarder cela attentivement. Vous allez comprendre plus le mot « religion » avec ses différentes facettes et comment les religions s'expriment dans le monde. Alors, on sait que quand on dit que le mot peut même inclure l'adoration de démons, on va aller voir deux versets. 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 20, dans la version Sterval. Ça dit « Non, mais ce que les gentils sacrifient, ils le sacrifient à des démons et non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous ayez communion avec les démons. » On a aussi dans Acte 17, versets 22 et 23, lorsque Paul était à Athènes et qu'il s'était promené, qu'il avait vu une multitude de religions, pas de religions, mais de dieux, selon leur perspective à eux. Alors ça dit dans Acte 17, Paul, debout au milieu de l'Aréopage, dit « Hommes Athéniens, je vous trouve à tous égards extrêmement religieux. Car en parcourant votre ville et en considérant les objets de votre dévotion, j'ai même découvert un autel avec cette inscription, « À un Dieu inconnu ». Alors on voit que la religion, c'est quelque chose de très large, et qu'à quelque part, quand on dit la religion chrétienne, bien entendu, c'est pas mal plus étroit, avec des définitions très précises. Basé aussi sur les Saintes Écritures, du moins pour la religion chrétienne. Le mot, l'autre mot qu'on avait dit qu'il utilisait pour nous faire voir, clarifier la signification du mot théologie, c'est le mot doctrine. Alors, le mot doctrine, ça veut tout simplement dire enseignement. Ça vient du latin doctrina, qui veut dire enseignement, instruction, formation, éducation. Alors, on a des exemples dans les Écritures de l'utilisation du mot « doctrine ». 1 Timothée, chapitre 1, verset 10. « Pour les fornicateurs, les abominables, les voleurs d'hommes, les menteurs, les parjures, et tout ce qui est contraire à la saine doctrine. » Et 1 Timothée, chapitre 4, verset 1. « L'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns se détourneront de la foi, s'attachant à des doctrines à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Le pasteur David Wells fait une observation intéressante sur ce qui différencie la doctrine de la théologie. Voici ce qu'il dit. Je cite. La doctrine est le simple résumé de ce que la Bible enseigne sur n'importe quel sujet. Tandis que la théologie élabore sur la doctrine afin de l'organiser, d'explorer ses relations, de défendre sa véracité et de relier ses implications à d'autres domaines. Alors, bien entendu, la citation de base était en anglais, je l'ai fait traduire par Google et je l'ai revisée. Et le troisième mot qu'il voulait utiliser pour nous faire comprendre le mot théologie, c'était celui de dogme, du grec ancien dogma. Alors, un dogme, c'est une vérité ou un décret indiscutable défini par l'autorité compétente et qui devient par le fait même un objet de foi. En religion, c'est un point capital de doctrine, une vérité considérée comme incontestable par l'Église, par une Église chrétienne ou par une autre religion. Le pasteur Becky nous conseille d'imaginer des cercles concentriques pour nous aider à visualiser les relations entre ces concepts. Il dit, nous pouvons visualiser la relation entre la théologie, la religion, la doctrine et le dogme comme un ensemble de cercles concentriques, avec le dogme au centre, la doctrine ensuite, puis la théologie et à l'extrême, la religion ou la foi et la vie. La théologie est donc une vaste discipline intellectuelle qui forme un lien crucial entre les doctrines chéries par l'Église et l'ensemble de l'exercice de la piété dans ce monde. Robert Redmond, qui a vécu de 1932 à 2013, a déclaré « Le théologien systématique, considérant les Écritures comme une révélation complète, cherche à comprendre de manière holistique, le plan, le but et l'intention didactique de l'Esprit divin révélé dans la Sainte Écriture et à organiser ce plan, ce but et l'intention didactique de façon ordonnée et cohérente comme article de la foi chrétienne. » On va maintenant regarder un petit peu. C'est sûr qu'étudier la théologie, si vous rentrez dans une faculté de théologie, puis vous regardez l'ensemble des volumes qu'il y a là-dedans, il y en a énormément. Becky considère que les écoles bibliques et les séminaires de théologie en Europe et en Amérique du Nord, comme enseignant principalement le savoir théologique en quatre branches, ce qu'il appelle les études bibliques, en anglais il appelle ça « biblical studies », Deuxième branche, l'histoire de l'Église ou « church history ». Troisième branche, la théologie systématique. Et la quatrième branche, la théologie pratique. Dans ces quatre branches se trouvent bien d'autres disciplines spécifiques qui dépendent les unes des autres. Elles se chevauchent souvent et leurs frontières ne sont pas étanches. Alors, ce qu'on va faire, on va, à partir des quatre divisions, on sait que ça comprend beaucoup d'autres subdivisions, on va regarder très, très sommairement un petit peu en quoi consistent les subdivisions. Alors, on a la théologie historique. La théologie historique s'intéresse à la façon dont les chrétiens ont compris divers sujets théologiques à différentes époques. On a aussi la théologie philosophique. Théologie philosophique consiste à étudier les sujets théologiques en utilisant en priorité, non pas la Bible, mais les outils et méthodes du raisonnement philosophique et ce que l'on peut connaître de Dieu par l'observation de l'univers. On a ensuite la théologie exégétique, qui vient du grec exégeomai, qui signifie faire sortir le sens. À l'origine, les mots herméneutique et exégèse étaient interchangeables. Graduellement, une différence s'est dessinée. L'exégèse cherche à comprendre le texte en lui-même, alors que l'herméneutique tente d'élucider la signification du texte pour l'interprète moderne. La fonction de l'exégèse est donc de conduire vers l'herméneutique. Elle comprend l'étude de la formation du canon, donc comment les différents livres en sont venus à faire partie de la Bible, l'étude des langues, hébreu, grec, araméen, les genres littéraires, aussi on se rend compte en étudiant les Écritures qu'on ne parle pas toutes des mêmes choses. On a la loi, on a de l'histoire, on a de la poésie, on a des épîtres, on a des évangiles, on a de la prophétie, puis on a ce qu'on appelle le genre apocalyptique. Alors, c'est toutes des choses qui rentrent dans l'étude de la théologie exégétique. Maintenant, il y a d'autres branches, ou des sous-branches, des quatre principales branches qu'on a parlé au début. Donc, il y a l'apologétique et la polémique. L'apologétique, c'est la défense de la foi. Donc, quand certains ennemis de la foi chrétienne ont attaqué, il y a tout un aspect du christianisme, de la littérature chrétienne qui s'est développée pour défendre la foi. Il y a aussi l'aspect, je dirais, dénonciation des fausses doctrines. Donc, il y a un aspect défensif, puis il y a un aspect offensif. Défensif, c'est l'apologétique, et polémique, c'est vraiment aller dénoncer des erreurs de d'autres religions ou des doctrines à l'intérieur de la religion chrétienne. On va aller regarder quelques versets qui nous parlent un petit peu de ces idées-là. 2 Timothée, chapitre 2, versets 24 et 25. « Or, il ne faut pas que le serviteur du Seigneur aime à contester, mais il doit être doux envers tous, propre à enseigner, patient, redressant avec douceur les adversaires, attendant que Dieu leur donne la repentance et leur fasse connaître la vérité. » On a aussi dans Jude, versets 3 et 4, « Bien-aimés, pleins de zèle pour vous écrire touchant notre salut commun, j'ai jugé nécessaire de le faire pour vous exhorter à combattre pour la foi qui a été donnée une fois aux saints. Car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies qui changent la grâce de notre Seigneur en dissolution et qui renient Dieu, le seul dominateur, et Jésus-Christ, notre Seigneur. » Et on a aussi 2 Corinthiens, chapitre 10, versets 3 à 5. « Car quoique nous marchions dans la chair, nous ne combattons point selon la chair. En effet, nos armes de guerre ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes en Dieu pour renverser les forteresses, pour détruire les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et pour amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ. » Alors, tout au cours de l'histoire, il y a eu des personnes qui ont développé de la littérature chrétienne pour défendre la foi, puis il y a eu aussi de la littérature chrétienne qui a été développée pour dénoncer les fausses doctrines et les fausses religions. Maintenant, une autre sous-branche, c'est celle de la théologie biblique. Elle comprend la théologie de l'Ancien Testament, la théologie du Nouveau Testament. Ces disciplines organisent leurs thèmes historiquement et dans l'ordre où ils sont présentés dans la Bible. Ainsi, la théologie de l'Ancien Testament répond à des questions comme: que nous apprend le livre du Deutéronome au sujet de la prière? Ou qu'enseignent les psaumes à propos de la prière? Ou quel est l'enseignement d'Ésaïe sur la prière? Quant à la théologie du Nouveau Testament, elle répond à des questions comme qu'enseigne l'évangile de Jean sur la prière, ou qu'enseigne Paul au sujet de la prière. Donc, elle cherche à comprendre le développement historique des enseignements sur différents sujets. Donc là, on prend l'exemple de la prière, mais on pourra prendre l'exemple de n'importe quel sujet des Écritures et regarder la théologie de façon historique, à la fois dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament. Et ensuite, on a une autre sous-branche qui est celle de la théologie éthique. La théologie éthique cherche à déterminer les devoirs des hommes et des chrétiens sur des sujets moraux, comme par exemple le divorce, l'homosexualité, les drogues, l'idolâtrie, les devoirs envers les parents et les autorités, le mariage, l'adoration biblique, etc. Autrement dit, tout ce qui est moral, l'éthique, la morale, c'est-à-dire la théologie éthique va chercher à développer et aider les chrétiens à comprendre, et à la fois les hommes et les chrétiens, sur ce que la Bible enseigne du point de vue moral. Et la dernière sous-branche est celle de la théologie, on pourrait appeler la théologie pratique. Elle comprend par exemple les qualifications des pasteurs et des diacres pour le ministère, l'homélitique, donc l'art de construire et de livrer des sermons. Elle comprend aussi l'enseignement, la catéchèse, le counseling, l'évangélisation, les missions, etc. Deux versets pour nous parler de la théologie pratique. Acte 20, verset 28. Car je vous ai annoncé tout le dessein de Dieu, sans en rien cacher. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'Église de Dieu, qu'il a acquise par son propre sang. Donc, tout le conseil de Dieu, tout le dessein de Dieu, ça veut dire, je vous ai annoncé toute la Bible au complet dans chacune de ses livres, dans chacune de ses doctrines. Et aussi, on a 1 Pierre, chapitre 5, verset 2. Paissez le troupeau de Dieu qui est au milieu de vous, veillant sur lui, non par contrainte, mais volontairement, non pour un gain honteux, mais par affection. Alors, on va regarder maintenant l'idée pourquoi on se doit d'étudier la théologie. Je pense qu'il y a une raison qui est assez simple, c'est celle que le Christ le commande. Par exemple, dans Matthieu, au chapitre 28, les versets 19 et 20, nous lisons « Allez donc et instruisez toutes les nations » les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et leur apprenant à garder tout ce que je vous ai commandé. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Amen. Donc, Christ commande, si on veut instruire les nations, et si on veut leur apprendre à garder tout ce que Christ nous a commandé, bien entendu, ça implique une connaissance approfondie des Écritures pour être capable de transmettre l'enseignement que le Seigneur nous a laissé. Donc, pourquoi étudier la théologie? Parce que Christ le commande, premièrement. Deuxièmement, pour obéir au mandat missionnaire. Parce que quand il nous dit « Allez, instruisez toutes les nations », le mandat missionnaire de l'Église comprend deux facettes, l'évangélisation et aussi la formation de disciples, comme on vient de le lire dans le verset de Matthieu 28. Instruire les nations, donc les annoncer l'Évangile, et aussi les former, former des disciples avec eux. Troisième raison pourquoi étudier la théologie, tout simplement pour croître spirituellement et dans la piété. 1 Timothée, chapitre 6, verset 3, dit « Si quelqu'un enseigne autrement et ne s'attache pas aux salutaires paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et la doctrine qui est selon la piété. » On pourrait prendre beaucoup d'autres versets, mais croître spirituellement, les Écritures contribuent énormément à cette fonction. Quatrièmement, pour construire l'Église et la vision du monde de ses membres. Donc, chacun des membres d'une Église a une certaine vision du monde lorsqu'il arrive dans une église, mais c'est quelque chose qui se construit, sa vision, se devrait d'être vraiment modifiée, qu'on pourrait dire bibliquement. On comprend les choses de plus en plus selon les enseignements que Dieu nous donne. Mais ça ne se fait pas tout seul, ça se fait au courant de toute une vie chrétienne, avec une multitude d'enseignements, de sermons, de livres qu'on lit, et d'échanges entre chrétiens. Cinquièmement, c'est pour avoir la capacité de défendre sa foi et de dénoncer l'erreur. On a dans 1 Pierre, chapitre 3, verset 15, « Mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. » Donc le Seigneur nous dit d'être toujours prêt à se défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison. Alors ça, c'est une chose, parfois, j'ai remarqué, ça fait quand même 43 ans que je suis chrétien, j'ai remarqué que des fois les chrétiens, dès qu'ils rencontrent une certaine petite difficulté, sont portés à tout de suite aller demander conseil au pasteur, ce qui n'est pas de mauvaise affaire en soi, mais c'est juste l'idée que, comme chrétiens, les Écritures nous demandent, nous, d'être capables de se défendre, l'espérance qui est en nous. Et on a aussi, dans Tite, chapitre 1, versets 9 à 11, « Attachés à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capables d'exhorter selon la sainte doctrine et de réfuter les contradicteurs. Il y a en effet, surtout parmi les circoncis, beaucoup de gens rebelles, de vains discoureurs et de séducteurs, auxquels il faut fermer la bouche. Ils bouleversent des familles entières, enseignant pour un gain honteux ce qui ne doit pas s'enseigner. » Alors ici, on a deux idées. C'est sûr que ça, ici, dans le contexte de Tite, ça s'adresse surtout à des pasteurs, mais je pense que ça s'adresse aussi à tous les chrétiens d'être capables d'exhorter selon la sainte doctrine, et être capable de réfuter les contradictoires. Et la dernière, 1, 2, 3, 4, 5, la gloire de Dieu, bien entendu. On fait les choses, on étudie la théologie pour la gloire de Dieu. Alors, on pourrait dire, comment étudier la théologie? Alors, on va donner certaines idées sur comment on se devrait de procéder lorsqu'on décide, lorsque Dieu nous met à l'esprit, d'étudier la théologie. On se devrait toujours d'étudier la théologie dans un esprit de prière. L'étude de la théologie est une activité spirituelle qui nécessite l'aide du Saint-Esprit. Deuxièmement, on se devrait d'étudier la théologie avec humilité. On a, par exemple, un très judicieux conseil dans 1 Pierre, chapitre 5, verset 5. « De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens, et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » N'importe qui a commencé à vouloir étudier la théologie de façon sérieuse se rend compte que les difficultés sont nombreuses, et que le livre est d'une sagesse infinie et d'une richesse infinie, alors on a besoin de l'aborder avec humilité et en cherchant l'aide de ceux qui peuvent nous aider, qui ont plus d'expérience que nous. Autre chose qu'on se devrait le faire, comment étudier la théologie, devrait étudier la théologie à l'aide de notre raison. Il est légitime d'utiliser l'intelligence, la logique, et la raison humaine pour examiner les affirmations de l'Écriture et en tirer des conclusions. Nous sommes libres d'utiliser nos capacités de raisonnement pour tirer des déductions d'un passage de la Bible dans la mesure où ces déductions ne contredisent pas le clair enseignement d'un autre passage de l'Écriture. Ce principe nous sert de garde-fou quand nous nous efforçons de tirer des déductions logiques de l'Écriture. Nos déductions soi-disant logiques peuvent être erronées, mais l'Écriture elle-même ne peut se tromper. Ainsi, par exemple, nous pouvons lire la Bible et observer que Dieu le Père est appelé Dieu, que Dieu le Fils est appelé Dieu, et que Dieu le Saint-Esprit est appelé Dieu. Nous pourrions en déduire qu'il y a trois dieux, mais nous constatons ensuite que la Bible enseigne explicitement que Dieu est un, par exemple dans Deutéronome chapitre 4, verset 6. Et bien entendu, la Bible nous dit dans le psaume 119, verset 160, la version Darby, « La somme de ta parole est la vérité et toute ordonnance de ta justice est pour toujours. » Alors, c'est bien important de réaliser qu'on a besoin de comprendre qu'on ne peut pas partir des vérités à partir d'un verset, mais qu'il faut toujours examiner l'ensemble de ce que les Écritures enseignent sur le sujet. Autre chose, conseil pour étudier la théologie, on se devrait toujours d'étudier la théologie avec l'aide des autres. Nous devrions être reconnaissants que Dieu ait établi des enseignants dans l'Église. Il nous le dit, par exemple, dans 1 Corinthiens, chapitre 12, verset 28, « Et Dieu a établi dans l'Église, premièrement, les apôtres, secondement, les prophètes, en troisième lieu, les docteurs, ensuite, ceux qui opèrent des miracles, puis ceux qui ont le don de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. » Alors, on a vraiment dans le verset le mot « les docteurs », donc ça, c'est les personnes que Dieu a appelées pour enseigner la parole. On se devrait aussi d'étudier la théologie en rassemblant et en comprenant tous les passages de l'Écriture relatifs à un sujet particulier. Nous pourrons le faire en trouvant les versets correspondants à l'aide d'une concordance, par exemple. Nous pourrons ensuite prendre des notes et essayer de résumer le contenu des versets correspondants. Il serait aussi sage de lire dans des ouvrages de théologie systématique les sections correspondantes. Nous devons étudier la théologie dans la joie et la louange. Nous devons aimer tout ce que Dieu est, tout ce que Dieu dit et tout ce qu'il a fait. Par exemple, quelques versets. Deutéronome chapitre 6, versets 5 et 6. « Tu aimeras donc l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force, et tes commandements que je te prescris aujourd'hui seront dans ton cœur. » Psaume 139, versets 17 et 18. « Que tes pensées me sont précieuses, ô Dieu, et combien le nombre en est grand. Les veux-je compter? Elles sont plus nombreuses que le sable. Si suis-je réveillé, je suis encore avec toi. » Et un dernier passage, psaume 119, verset 14, verset 111 et verset 162. On verra quelque chose, une idée qui est présente dans les trois versets. Dans le verset 14, ça dit « Je me réjouis en suivant tes préceptes, comme si je possédais tous les trésors. » Dans le verset 111, « Tes préceptes sont pour toujours mon héritage, car ils sont la joie de mon cœur. J'incline mon cœur à pratiquer tes statuts, toujours, jusqu'à la fin. » Et le verset 162 qui dit « Je me réjouis de ta parole comme celui qui trouve un grand butin. » La réaction du chrétien, quand il étudie la théologie, devrait ressembler à celle de Paul après qu'il est arrivé au terme d'un long exposé théologique en Romains 11. Émerveillé par la richesse de la doctrine que Dieu lui a donné d'exposer, il ne peut s'empêcher de le célébrer joyeusement. Romains chapitre 11, verset 33 à 36, c'est vraiment une expression de très grand émerveillement de ce que Dieu lui a donné d'exposer, de comprendre. « Ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. Car qui a connu la pensée du Seigneur? Ou qui a été son conseiller? Qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour. C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui la gloire dans tous les siècles. Amen. Amen. Trois applications. La première, implorons le Seigneur de nous donner d'aimer la théologie, un trésor de connaissances sur lui, sur ses paroles, sur ses œuvres. Demandons-lui de surmonter nos paresses et nos mauvaises compréhensions de ce qu'est véritablement la théologie chrétienne biblique. Deuxièmement, n'oublions jamais que notre marche chrétienne sera en proportion directe avec le temps et les efforts que nous y consacrerons. Seigneur, donne-nous le vouloir et le faire pour que nous t'honorions en pratiquant joyeusement cette très noble activité. Troisièmement et dernièrement, l'étude de la théologie nous apportera d'énormes bienfaits spirituels. Seigneur, permets dans ta grâce que nous aimions étudier la théologie. Nous serons richement récompensés et nous apporterons honneur et gloire à notre Seigneur Jésus-Christ. Par sa grâce et pour sa gloire. Amen. Amen.